France Culture.
h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Il sort son 11e album et il s'offre le luxe d'un double disque, 24 chansons entre Europe et Amérique latine. Benjamin Biolay est l'invité des midis à partir de 13h. Mais avant de voyager avec lui, on fait une incursion vers l'Allemagne de l'Est et l'Espagne post-franquiste. C'est le programme de la critique littéraire avec les romans Kairos de Ginny Erpenbeck aux éditions Gallimard et Je ne te verrai pas mourir d'Antonio Muñoz Molina aux éditions du Seuil. Vous écoutez les midis de culture et ça c'est vraiment vous. Et pour débattre autour de la table, j'appelle Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO, productrice du Point Culture sur France Culture.
Présente. Bonjour. Bravo. Marie.
Pierre Benetti, critique littéraire de AA, en attendant Nado. Bonjour.
Présent aussi, bonjour.
C'est bien, c'est parfait. Allez, on commence avec Kairos, 6e roman de l'autrice allemande Ginny Erpenbeck, qui nous arrive 4 ans après sa parution outre-Rhin, traduit en français par Rose Laboury, chez Gallimard. Berlin-Est, 1986, une jeune étudiante et un écrivain de 34 ans, son aîné, se rencontrent dans un bus et c'est le début d'un amour passionné et adultère puisque Hans est marié. On le sait, 3 ans plus tard, le mur tombera. En attendant, Hans et Katerina s'aiment, mais peu à peu leur liaison se dégrade à l'image du régime communiste finissant. Les deux amants n'ont pas connu la même Allemagne. Hans a connu le nazisme, il a choisi la RDA après-guerre. Katerina, elle, est née après l'érection du mur et regarde vers l'avenir. Vous l'aurez compris ici, Ginny Erpenbeck mêle donc l'intime à la grande histoire. Kairos a remporté le Booker Prize International 2024. On commence avec un avis rapide. Marie Sorbier.
Bien, c'est un livre dense, épais, qui prend le temps de déplier son sujet sans jamais rien céder à la facilité. Je trouve que l'autrice parvient avec élégance et précision, c'est un terme important, à tricoter ensemble la passion amoureuse que vous évoquiez dans toute sa violence et un monde qui s'effondre pour laisser place à un autre. C'est peut-être le roman, moi, qui m'a le plus marqué en cette rentrée littéraire.
Pierre Benetti.
Ah ben, je vais complètement aller dans ce sens-là. C'est vraiment un grand livre. Moi, il m'a laissé une empreinte très très puissante et c'est une empreinte qui est plus laissée par la forme par laquelle Ginny Erpenbeck raconte cette histoire que par l'histoire elle-même qui pourrait sembler comme ça assez anodine, hein, la mise en parallèle de la fin d'un couple et la fin d'un régime. Mais on énormément de choses à dire sur ce livre qui est absolument magistral et qui est pour autant aussi émouvant.
On écoute quelques lignes lues par Jules Barbier de Kairos.
L'instant où elle a rencontré Hans, alors qu'elle n'avait que 19 ans, était-il propice? Un jour de début novembre, elle s'assied par terre et, page après page, dossier après dossier, se met à passer le contenu du premier, puis du second carton en revue. En vérité, c'est un champ de ruines. Les documents les plus anciens datent de 1986, les plus récents de 1992. Elle trouve des lettres et des copies de lettres, des notes, des listes de courses, des calendriers, des tirages et des négatifs photos, des cartes postales, des collages, parfois un article de journal. Un morceau de sucre du café Kranzler s'effrite entre ses doigts. Des feuilles d'arbres séchées s'échappent d'entre les pages. Des photos d'identité sont attachées à des documents par des trombones. Une boîte d'allumettes renferme une touffe de cheveux.
Kairos de Ginny Erpenbeck, paru aux éditions Gallimard sur une traduction de Rose Laboury. On parlait de la forme rapidement avec Pierre Benetti. Là, on entend, c'est un retour en arrière déjà, ce roman.
Oui, d'ailleurs, la première page, là, c'est le prologue qu'on entend où on comprend qu'il va être question d'archives orales et écrites. Et j'en viendrai là parce que moi, c'est ce qui m'a finalement le plus intéressé dans ce livre. Mais en effet, le roman commence par c'était le jour de son enterrement, une phrase comme ça. Donc, c'est Katharina, on comprend qu'on est là. Dans un présent ou en tout cas dans un futur par rapport au livre qui va se déployer et qu'elle parle de cet amour qu'elle a eu qui est mort. Donc on est juste, on regarde le passé et pour regarder le passé, elle va très bêtement avec ce motif littéraire un peu rebattu trouver une vieille valise avec des lettres et des objets dedans qu'elle va réouvrir et elle va retrouver voilà un peu son passé. Dit comme ça, ça paraît complètement bateau, mais je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Pierre. Ça ne l'est pas. Il y a d'abord une langue. Je vais peut-être commencer par là. La langue, j'ai trouvé complètement folle parce que elle est à la fois très féminine. Et elle est dans une précision psychologique que j'ai rarement vue.
Féminine, Marie.
Alors oui, il faut pas que je m'engage là-dedans, mais je vais tenter. Si, il y a, je trouve une précision psychologique sur ce que ça veut dire aimer, que l'on soit une jeune fille de 20 ans ou un homme de 60 ans adultère, et elle décrit la passion amoureuse et sa chute avec des mots et avec une précision que j'avais rarement lue et qui, moi, m'ont vraiment beaucoup touchée. Vous avez évoqué le mot émouvant, c'est vrai, il y a des passages très émouvants, que ce soit d'ailleurs dans la montée de l'amour et dans la passion. Ils se rencontrent par hasard dans la rue et ils s'aiment vraiment, c'est un coup de foudre. À la deuxième partie du livre, qui est presque mal aimable tellement il est pervers, hein. Il y a des pages d'une perversion folle. Lui la met complètement sous emprise par une puissance symbolique, parce qu'il est plus âgé, parce qu'il a la puissance de la culture, etc. La deuxième partie du livre est terrible là-dessus, mais que ce soit donc dans l'amour ou dans la chute, elle a une façon de parler du couple et de l'amour qui, moi, m'a vraiment bluffé. J'ai trouvé ça magnifique, ne serait-ce que dans l'enchaînement des phrases qui est assez redondant. Elle pose beaucoup de questions, elle assène pas grand-chose, mais c'est plutôt des questions posées, des phrases qui reviennent. On est dans un univers, elle crée un paysage et on est complètement avec eux, que ce soit d'ailleurs avec elle et avec lui. On est autant dans sa tête à elle que dans sa tête à lui. Et ça, je trouve que c'est vraiment une réussite totale. Juste un mot sur moi, ce qui m'a complètement passionnée, c'est ce rapport entre l'oral et l'écrit. Parce que là, on l'entend. Tout commence par des lettres, ce sont des amants qui s'écrivent beaucoup. Et même un moment où elle lui dit, elle, mais pourquoi tu veux qu'on s'écrive alors qu'on se voit tous les jours, et il lui dit cette phrase, il lui dit « l'essentiel ne se dit pas ». Et on comprend que tout passe par l'écrit, en tout cas l'amour passe par l'écrit. Et dans cette deuxième partie du roman où on est sur la chute du couple, là on passe à l'oralité, puisque qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'écrivent plus, ils s'envoient des cassettes, ils s'enregistrent des cassettes qui doivent s'écouter et réécouter. Et c'est là où la perversion naît. Je trouve que ce rapport entre l'oral et l'écrit est formidable, et elle le lit, parce qu'il, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est le théâtre, puisque qu'est-ce qui réunit les deux, l'oral et l'écrit? Eh bien, c'est la scène, et le théâtre est toujours là, derrière, en fond. On parle de Brecht, on parle de mise en scène de Castorf, par exemple, on parle de Müller, enfin de tout ce théâtre là, je trouve que c'est très juste et d'une construction assez lumineuse.
Pierre Benetti, vous disiez la forme, c'est ce que vous avez retenu. Hein.
Oui, c'est-à-dire que on est frappé d'une certaine manière par ce livre, parce que de plus en plus on parle des livres à propos de l'histoire qu'ils racontent, et surtout encore plus dans un cas d'enquête avec des archives, et on parle, à mon sens, actuellement de moins en moins de forme. C'est comme si le livre, un peu à la manière de la lampe magique dans Aladdin, il sort, c'est-à-dire que de manière assez surnaturelle, sort de ces cartons qui arrivent ce jour-là. Je vais revenir sur le prologue qu'on a entendu, parce que vraiment il y a un procédé assez intéressant, assez inédit d'ailleurs, je crois, qui est utilisé là. Tout le livre, c'est-à-dire toutes les émotions dont vient de parler Marie, avec une très grande justesse d'ailleurs, je suis entièrement d'accord, des émotions dures et profondes, toutes les émotions des personnages vont sortir de ces cartons et donc de ces dossiers, c'est-à-dire que chaque chapitre correspond à un dossier, et on peut même imaginer que chaque paragraphe, parce que c'est un livre extrêmement construit, va correspondre peut-être à une feuille, peut-être à une photo, etc. Sauf que il n'y a pas du tout de personnage d'enquêteur ou bien même de personnage. On n'est pas à la première personne. Hein, c'est pas l'un des deux personnages du couple qui regarde ces documents ou qui les commente en direct. Il y a une voix extérieure qui nous fait entendre toute l'épaisseur du temps qui s'est installé, en particulier dans celle qui a survécu, parce qu'au début du roman, on comprend que Hans vient de mourir, il est bien plus vieux qu'elle, etc. Et donc la forme, disons qu'il y a une structure qui permet de mettre à distance les émotions, tout en les faisant ressentir au lecteur. C'est assez étonnant. Et puis moi, j'ai été très charmé tout de suite par un petit détail, c'est que ce Hans, il est musicologue, il va à la radio, il dîne avec Heiner Müller. D'ailleurs, la référence au théâtre que vous avez faite, Marie, est très importante, puisque Jenny Erpenbeck a travaillé aussi avec Heiner Müller. Elle a passé les 30 premières années de sa vie en RDA. Il y a un tout petit détail, c'est que ce Hans, il écrit un roman qui s'appelle « Le chemin rebroussé ». Et tout le principe de la relation, en tout cas dans la première partie qui est, disons, l'idylle amoureuse, le principe de cette relation va être de revenir constamment sur les lieux de cet amour, retourner dans les restaurants, aller sous le pont où on s'est rencontrés, revoir les immeubles, et puis alors ils adorent les éphémérides, les dates, les anniversaires, les coïncidences, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme qui est intégrée même au... Il y a une forme littéraire à l'intérieur même de la vie des personnages. Je me suis même d'ailleurs demandé comment l'allemand disait rebrousser chemin, et je trouve que Rose Labouri, qui a traduit le livre et qui est très déjà beaucoup reconnue pour son travail de traductrice, là a donné des choses extraordinaires. Enfin, c'est-à-dire que de trouver l'invention, le chemin rebroussé pour faire entendre aussi ce qui se passe dans la vie de ces deux personnages, qui sont aussi à un moment très particulier. On n'a pas encore insisté là-dessus, c'est que ça se passe 3 ans avant, durant les 3 dernières années de l'Allemagne de l'Est, ils sont obligés, en tout cas pour le plus âgé d'entre eux, de rebrousser chemin et de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies. Voilà. Bon, je dis simplement ça parce que disons qu'il y a une attention formelle qui est même dans la vie de ces personnages, dans la manière de vivre elle-même. On dirait que c'est un peu des écrivains tous les deux, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement littéraires dans leur manière de vivre leur relation, quoi.
Marie, on disait que c'était un peu pas une tarte à la crème, mais en tout cas une figure déjà bien utilisée, ça, de faire montrer la grande histoire et la petite histoire, un régime finissant, une histoire qui se casse la figure. Alors comment elle utilise ce motif-là?
Oui, motif utilisé et puis même un peu dangereux, je trouve, en 2025. On est quand même sur une très jeune femme qui tombe amoureuse d'un homme beaucoup, beaucoup plus âgé, lui-même marié, qui lui fait promettre au départ, qui lui dit, hein, tout début de la relation, dans les premiers jours, attention, je suis marié, je quitterai jamais ma femme, donc voilà, il faut que tu prennes ça pour acquis, ce sera comme ça. Il y a vraiment une relation de dominant à dominer.
Il y a du sadomasochisme aussi.
Clairement, et dès le début, c'est-à-dire même dans la passion amoureuse, on l'oublie parce qu'on préfère regarder l'histoire d'amour, mais en fait, elle est déjà là, et dès les premières paroles qui s'échangent. Donc ça, c'est un sujet, un peu compliqué, parce qu'elle elle la magnifie au départ. Dans la première partie du livre, je me suis dit, waouh, elle est quand même en train de dire que c'est une grande et belle histoire d'amour, alors qu'on sent déjà... Mais non, c'était mal la connaître. Toute la deuxième partie du livre démonte tout ça de façon magistrale. La chose qui m'a vraiment intéressée, et ce pourquoi, en fait, finalement, ce thème n'est pas tellement rebattu, et pourquoi ça m'a intéressée, c'est que je crois que ce qui est en souterrain, son sujet, c'est une histoire sur la vérité. Alors, dit comme ça, c'est encore des grands mots. Mais je crois qu'il y a quand même un truc sur la vérité, notamment dans le couple, et après dans l'histoire. Mais dans le couple, parce qu'il y a cette obsession de Hans... qu'il faut qu'ils se disent tout. Il faut plutôt qu'elles lui disent tout. C'est-à-dire, mais tout ce qu'elle fait, elle doit vraiment être complètement transparente. Elle accepte, étant follement amoureuse. Évidemment, ça va lui coûter très cher à la fin, puisque elle part faire ses études à Francfort, je crois, dans une ville à côté. Elle a une historiette. Enfin, je ne sais même pas comment le qualifier. Enfin, rien, un rapprochement avec un garçon à Francfort. Et là, le livre bascule dans la seconde partie, c'est-à-dire qu'il devient complètement obsédé.
Alors, c'est pas tout à fait rien, puisque elle rencontre précisément un jeune Allemand de l'Ouest et de sa génération.
Mais en termes de couple, termes de relation, je suis d'accord que symboliquement c'est quelque chose. Mais et à partir de là, c'est là où les cassettes adviennent, parce qu'il ne peut plus lui écrire, parce qu'évidemment tout est cassé, l'amour est perdu, c'est horrible, elle l'a trahi, etc. Donc il ne peut plus lui écrire, mais il va lui parler, donc il fait des cassettes horribles où il l'insulte. Mais c'est vraiment, le texte qui est retranscrit de ces cassettes-là est vraiment, je trouve, d'une violence folle, et elle doit le réécouter pour comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Et tout ça parce qu'il le justifie en disant « il faut que la vérité soit au centre du couple ». Je trouve que ce thème de la transparence, du vœu pieux de la transparence dans le couple comme machine infernale, est particulièrement bien rendu.
Non, mais ça fait penser aussi à la surveillance partout de la Stasi, de l'Allemagne de l'Est. Enfin,
de la Stasi, parce qu'il est très intéressant ce personnage de Hans. C'est un enfant de l'Allemagne nazie, c'est quelqu'un qui a été dans les jeunesses hitlériennes. Il y a un petit détail aussi, on comprend au détour d'une page qu'il est né à Riga, c'est-à-dire une ville qui a été successivement occupée par les armées nazies et soviétiques. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans un système totalitaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un rapport à la vérité politique, à une vérité qui découlerait d'un usage de l'État, d'une écriture de l'histoire officielle, etc. Et en fait, c'est assez intéressant parce que Jenny Erpenbeck fait aussi partie de par aussi, il me semble, son milieu, sa famille d'intellectuels et d'artistes de l'Allemagne, de la RDA, de beaucoup de personnes qui ont cru jusqu'au bout à la possibilité du socialisme et qui voyaient bien l'aspect totalitaire ou autoritaire de ce régime, mais en même temps qui restait dans une foi marxiste, dans une croyance en la révolution et en tout cas en l'opposition au capitalisme ou à l'impérialisme. Donc on voit bien aussi que c'est un livre très important, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il a eu du succès en Allemagne. C'est un livre très important aussi pour comprendre les traumatismes successifs de cette société. C'est-à-dire que là on a deux personnages qui nous permettent d'avoir un regard, à mon sens, d'une finesse au-delà des clichés en fait qui mettraient la démocratie à l'ouest et l'autoritarisme à l'est. On a quelque chose de très fin parce que ça passe par l'intimité. C'est-à-dire que d'un côté il y a un vieux monde qui est en train de s'écrouler et qui s'accroche aux branches à travers ce Hans qui donne des cassettes d'éducation forcée à cette jeune femme, puis de l'autre cette jeune femme qui d'une certaine manière, est bien plus du côté d'une vérité de la fiction et de l'imaginaire. Enfin, il y a quelque chose de très.
Elle crée des décors de théâtre.
Elle crée, oui, c'est vrai. Elle travaille dans un théâtre. Et puis, elle a une manière, en fait, faudrait pas la, ce que vient de dire Marie est assez important parce qu'il faudrait pas que, qu'on comprenne que cette Katharina serait une sorte de victime passive qui vivrait sa, de manière douloureuse. Cette relation, elle a une liberté en fait assez intéressante dans son point de vue sur ce qui se passe et voilà. Mais en effet, c'est un vieux monde qui meurt. Il y a un monde nouveau qui va naître et les dernières pages sont absolument bouleversantes parce que tous les deux vont devoir rentrer dans leur propre ville, c'est-à-dire Berlin qui a été coupé en deux pendant tant d'années. Ils vont devoir découvrir une autre partie de la ville et aussi de leur vie en fait.
D'ailleurs, c'est assez beau de voir que ce Berlin-Est qui est décrit au départ est vraiment un paradis perdu. On le sent dans l'écriture, il y a une nostalgie folle. Et que quand l'Ouest s'ouvre, tout le mystère de l'Ouest disparaît. Et il y a là aussi un parallèle avec le couple. Quand d'un coup, le couple devient quotidien, on le voit bien avec la femme de Hans, sa femme officielle. Bon, il n'y a plus beaucoup d'excitation. Mais que quand il y a quand même un interdit et un mur qui coupe en deux, il y a un intérêt.
Il faut saisir le kairos, c'est-à-dire le bon moment.
Kairos de Jenny Harpenbeck aux éditions Gallimard, traduit en français par Rose Labouri. Et ce roman est dans la deuxième sélection du prix Femina étranger 2025.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Labouri.
Amour au passé, toujours, avec Je ne te verrai pas mourir de l'espagnol Antonio Muñoz Molina, qui a paru aux éditions du Seuil. Et ça commence comme ça, un homme regarde une femme, et elle a les mêmes yeux qu'avant. Avant, c'était il y a 50 ans, quand ils s'aimaient. Ses cheveux roux, ils sont devenus blancs, l'appartement est le même, ils se font face, 50 ans, après que lui, Gabriel Aristou, a tout plaqué pour partir aux États-Unis, fuir l'Espagne franquiste, et au passage, abandonner ses rêves de jeunesse. La première phrase de ce roman qui alterne les points de vue pour nous donner à comprendre la vie et les choix d'Aristou, cette première phrase s'étale sur une soixantaine de pages. Le roman est traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon. On commence avec quelques mots d'abord, Pierre Benedi.
Bon, c'est un roman extrêmement émouvant du point de vue de la nostalgie, de la réflexion qu'il apporte sur ce que fait le déplacement, l'exil dans une vie et comment on peut comprendre les choix qui ont été faits dans cette vie. En revanche, c'est aussi un roman, à mon sens, qui montre le métier de Molina, c'est-à-dire de Muñoz Molina, c'est-à-dire que là, après cette première partie qui est assez magistrale et en même temps où on sent bien que voilà, il maîtrise sa manière, disons. Moi, mon sens, c'est un livre qui m'a laissé un petit peu, qui m'est un peu tombé des mains au fur et à mesure. Il y a quelque chose de mou et de lourd que je n'arrivais plus du tout à garder, quoi.
Voilà. Marie Sorbier.
C'est un roman avec une construction surprenante. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier chapitre, cette longue phrase dont on parle, et ce n'est pas que de la forme pour de la forme. Je trouve que ça provoque quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a provoqué quelque chose, mais presque physiquement à la lecture. La suite est beaucoup plus classique, donc moi aussi, elle m'a un peu moins intéressée. N'empêche qu'il signe quand même un roman d'amour. Là encore, on parle d'une histoire d'amour, mais pas banale, sur peut-être l'amour le plus romantique, c'est-à-dire celui qu'on n'a pas vécu, quoi.
Et qui dure toujours. On écoute les premiers mots de Je ne te verrai pas mourir, Antonio Muñoz Molina.
Si je suis ici, si je te vois, si je te parle, c'est que je dois rêver, dit Aristou en observant autour de lui avec étonnement, gratitude, incrédulité, craignant que d'un instant à l'autre, tout se dissipe. Orientant son regard vers Adriana Zuber un demi-siècle plus tard, vers la couleur et l'expression inaltérée de ses yeux, surpris de constater à quel point, alors qu'il avait toujours cru les évoquer avec exactitude, il les avait oubliés. Ses beaux yeux rieurs entre le gris et le bleu, qui se posaient à présent sur lui comme la dernière fois, en mai 1967, dans un autre siècle et un autre monde. Et pourtant, dans cette même pièce où il avait découvert, en franchissant le seuil, que presque rien n'avait changé.
Je ne te verrai pas mourir d'Antonio Muñoz Molina. Merci à Nicolas Berger pour la lecture. Pierre Benetti, vous avez dit émouvant, mais il y avait un mais.
Non, mais d'abord, c'est quand même un livre qui nous saisit parce qu'il y a, Il nous fait ressentir la douleur de cette vie passée en dehors de l'Espagne et en dehors de l'amour qu'il aurait pu vivre. Et ça marche très bien. Il y a une phrase qui est très bouleversante, c'est « Celui qui s'en va est le premier à oublier ». Donc c'est Adriana qui va dire ça à Gabriel. Et tout se passe comme si en partant, Gabriel s'était coupé de son passé et la mémoire, on comprend, a besoin d'un lieu pour se développer. Il y a quelque chose d'extrêmement proustien dans la manière de Muñoz Molina, y compris dans la construction des phrases, etc. En revanche, il y a quelque chose qui ne me va pas à partir du moment où cette première partie, disons, pour la décrire simplement, fonctionne comme une sorte de flux de conscience pendant plusieurs parties différentes qui sont reliées par des points à la ligne. Ça marche extrêmement bien. J'ai un problème avec l'arrivée en deuxième partie d'un autre personnage qu'on n'attend absolument pas, Julio, ami et collègue de Gabriel aux États-Unis, lui aussi parti de l'Espagne franquiste, qui va raconter sa rencontre et sa relation avec ce Gabriel et là soudain on est un peu dans le roman universitaire ou le campus novel à l'américaine ou bien même chez Javier Marías par exemple le roman d'Oxford et je ne comprends pas l'intérêt de couper la narration qui nous a entièrement enveloppé, amené à comprendre la difficulté de ce personnage à revenir vers l'Espagne. Voilà, je suis un peu étonné de cette deuxième partie. Et puis ensuite, il y a une troisième partie, cette fois à la troisième personne, qui va raconter les retrouvailles de Gabriel et Adriana. Mais ça tombe un petit peu comme un soufflet, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose. Et d'une certaine manière, ça peut être l'intérêt de ce roman, de nous décevoir. Hein. C'est-à-dire que ce moment est finalement traité comme un prétexte à évoquer l'histoire de Gabriel, qui est en fait une sorte d'élève modèle torturé par ses regrets et par je vais y revenir parce que je trouve que le personnage caché du père est finalement peut-être le plus important de tous les personnages du roman. C'est Gabriel, il a vécu sa vie pour son père, c'est-à-dire qu'il a fait ce que son père n'a pas pu faire. Alors je suis un petit peu étonné de quelque chose qui m'échappe, enfin ça me tombe entre les mains. Et surtout je poserai la question et après je vous laisserai Marie en parler peut-être, mais et Adriana, elle est où cette femme? En fait on la rencontre jamais, on l'entend très peu. Voilà, je suis un peu étonnée.
Marie Sorbier.
Alors j'ai peut-être, en tout cas moi je me suis raconté une histoire en vous répondant Pierre, c'est que ce deuxième personnage, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'effet, c'est-à-dire qu'on sort de ces 70 pages un peu folles, un peu haletantes parce qu'on n'arrive pas à respirer parce qu'il n'y a pas de point, et on arrive sur une écriture beaucoup plus classique avec un jeu qui parle, et en gros ce sont des déjeuners d'affaires entre ces deux personnages, donc Gabriel et Julio, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Alors enfin, moi je me suis plutôt ennuyée dans cette partie, je me dis mais où est-ce qu'il va, on ne comprend pas bien ce qu'il veut dire, bon c'est sa vie aux États-Unis, très bien, ils parlent de leur Espagne natale, mais bon, pas plus que ça. Bref, ça m'a pas beaucoup intéressée. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il est malin, Molina ? Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce gros ventre mou du milieu ? Il se passe une seule chose, c'est qu'il dit un mot. À un moment donné, dans tous ces dîners qui servent à rien, il évoque le prénom.
Le prénom.
Le prénom de la femme aimée.
Ah.
Mais qui n'a rien à voir avec
Adriana.
Voilà, Adriana. Qui n'a rien à voir avec la vraie, hein. C'est juste.
Donc là, vous divulguez complètement.
Je divulgue un peu, mais je suis obligée un tout petit peu. Bref, il dit ce nom. Et qu'est-ce qui se passe? Gabriel, là, bam, il y a quelque chose qui passe dans sa tête, un court-circuit. Et il se dit, mon Dieu, ça fait 50 ans que j'ai plus vu cette femme que j'ai aimée. Il faut que je retourne la voir. Donc, ce qui est cette feinte littéraire qui est pas hyper confortable pour le lecteur parce qu'on s'ennuie un peu, mais qui, une fois qu'on l'a fini, je me suis dit, c'est quand même un peu malin de nous avoir fait mariner pendant je ne sais pas combien de pages avec des choses qui nous intéressaient pas, juste pour arriver sur un nom qui déclenche en fait la troisième partie du roman. Je trouve qu'en termes de construction, moi ça m'a fait sourire à la fin, même si encore une fois l'expérience de lecture est pas géniale dans cette deuxième partie. Et sur Adriana, je vais vous rejoindre Pierre, c'est-à-dire cette troisième partie, on l'attend, on comprend qu'il va y avoir retrouvailles d'une façon ou d'une autre. Elles ont lieu, mais elles sont un peu en creux. D'ailleurs, il ne se passe rien, c'est une discussion entre les deux. On a l'impression que, en effet, le temps est aboli, c'est-à-dire ces 50 ans sont passés comme si de rien n'était. Ils évoquent vaguement leur vie à eux, qui n'était pas très heureuse, chacun dans leur mariage, et c'est pas passé grand-chose. Et en fait, ce qui ressort de cette troisième partie et de ce livre en général, c'est que la vie vécue est un peu bof et pas très satisfaisante. Mais par contre, celle qu'on aurait pu vivre, là, il aurait pu se passer quelque chose, notamment s'ils n'étaient pas partis, s'ils avaient vécu leur histoire d'amour. Mais puisque vous parliez du père de Gabriel, Pierre, il y a aussi « Et si j'étais devenu musicien ?» Parce que ce fameux Gabriel qui part aux États-Unis, qui fait une grande carrière internationale, hein, il est dans une organisation internationale. En fait, son rêve, c'était de faire du violoncelle, je crois, enfin d'un instrument. Il passe tout son temps libre à ça et il aurait été beaucoup plus heureux s'il avait choisi sa carrière de musicien. Donc il y a tous ces si qui se passent à la fin de la vie et que finalement, cette vie rêvée aurait été quand même beaucoup plus intéressante que la vie vécue.
Pierre Benetti.
Oui, mais il n'empêche que sur le personnage de cette femme, Adriana, qui est quand même extrêmement malade et proche de la fin de sa vie au moment où Gabriel l'a rejoint. Moi, j'ai trouvé que ce roman était disons qu'il y a une forme de violence. J'ai senti que c'était, il y avait quelque chose de violent dans le.
Envers ce personnage féminin.
Envers, c'est pas. Voilà. En tout cas, oui, sur cette question-là, Gabriel est quelqu'un qui a quand même fait une carrière, a vécu une grande vie, a quitté un pays qui était quand même très compliqué dans les années.
Oui, il s'est enfui.
Au moment où il s'enfuit, elle y est restée, et on sent bien qu'ils n'ont absolument pas eu le même succès dans la vie, enfin, disons, le même succès personnel, la même liberté, disons. Et presque rien n'est dit de ce personnage, hormis qu'elle est malade et qu'elle va mourir. Et au détour d'une page, par ailleurs, on apprend qu'elle est issue, on le comprend indirectement, d'une famille juive rescapée de la Shoah. Donc ça, c'est un peu lâché au détour d'une phrase. Et j'ai eu l'impression qu'elle était réduite à une sorte de projection de Gabriel. À ce titre-là, c'est assez intéressant parce qu'on comprend qu'en fait, Gabriel n'a fait que réécrire l'histoire et que ce qui se raconte depuis 50 ans n'est absolument pas ce qu'elle a vécu, elle. Mais quand même, quoi, un personnage qui est comme ça, non seulement resté dans l'ombre pendant 50 ans, mais en plus resté dans l'ombre du roman, il y a un double effacement. J'ai été un peu étonné là que ce roman arrive là, alors qu'on a connu des romans d'Antonio Muñoz Molina qui donnaient de l'ampleur à chaque personnage, à chaque expérience, quoi.
Donc, il n'y a pas vraiment d'ampleur.
Voilà, c'est assez étonnant. Et alors c'est vrai que il parvient ce roman à faire sentir de manière très délicate les contradictions, mais j'aurais bien aimé entendre les contradictions aussi de cette femme.
D'ailleurs, qui s'exprime plutôt par son aide-soignante ou son infirmière qui est à côté, qui elle est dans le soin, la protège. Mais c'est vrai que ce personnage de femme est réduite à son fantasme. Mmh. Mais encore une fois, je crois que c'est un livre en fait sur la réalité qui est décevante, quoi, et que même ce rêve d'amour parfait qu'il a pu avoir quand il est confronté à la personne réelle, bah pour nous aussi lecteurs, c'est un peu décevant. Elle est décevante, cette femme, mais pas parce qu'elle est racontée comme ça. Et lui d'ailleurs n'est pas très glorieux non plus, ce dernier chapitre qui fermit dans sa maison de vacances, je ne sais où. Et d'ailleurs, c'est un livre qui ne finit pas. Il n'y a pas de fin. Ce chapitre de retrouvailles, il se termine sur une question qu'elle pose, mais la réponse n'est pas dite. Et puis lui, il part en retraite dans sa maison, et puis point. Il se passe pas grand-chose.
On dirait qu'il y a un livre caché dans ce livre. C'est que Muñoz Molina, il a du métier, je l'ai dit, et ça se voit pas uniquement dans la construction. Il y a un côté un peu jongleur, quoi. C'est-à-dire qu'il maîtrise extrêmement bien. C'est extrêmement bien traduit par Isabelle Guignon, hein, par ailleurs, qu'il faut saluer. Cette première partie, elle est absolument magistrale, et la suite aussi, hein, tout aussi en termes de langue, c'est assez précis et ample. Mais il y a un livre caché qui moi, c'est ça qui d'une certaine manière m'a plus tenu en haleine, c'est de comprendre la relation de ce Gabriel avec son père, père constamment évoqué comme quelqu'un qui lui a donné une sorte de mission de réussite, hein, de manière assez classique. Mais là où ça m'a encore plus intéressé, c'est que c'est un père qui est en dehors de tous les camps pendant la guerre d'Espagne, et Gabriel aussi ne va jamais choisir son camp. Ça, c'est assez intéressant.
Je ne te verrai pas mourir d'Antonio Muñoz Molina, paru au Seuil sur une traduction, on va y arriver, vous l'avez dit, Isabelle Guignon. Merci beaucoup Pierre Benetti, Marie Sorgue, d'être venu dans les Midis de Culture. Vous qui nous écoutez maintenant, c'est à vous de vous faire une idée.